Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, émission Quoi de Neuf. Dans quelques instants, nous serons en direct avec Valenciennes, où nous accueillera en direct, donc par téléphone, Stéphane André, qui est directeur de Rubika, l'école de jeux vidéo et d'animation de Valenciennes. Il y a en ce moment un jury qui étudie un peu les œuvres de fin de cycle, on va dire, des étudiants de cette école. Et donc, c'est l'occasion, puisque c'est en ce moment, d'avoir le directeur de cette école qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les écoles, quels sont les objectifs, et puis ce concours-là, à quoi il va servir, à part au plaisir de présenter les œuvres pour les élèves, bien sûr. Nous sommes en direct avec Monsieur Stéphane André, qui est directeur de l'école Rubika, l'école de jeux vidéo et d'animation de Valenciennes. Bonjour Monsieur Saint-André, Monsieur Stéphane André.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Alors, j'ai réagi à votre information qu'en ce moment se réunit, on va dire, un jury pour statuer sur les œuvres de vos étudiants qui sortent cette année, c'est bien ça?
Exactement, on a notre jury des diplômes des projets de fin d'études qui a lieu aujourd'hui et demain.
Alors on peut peut-être rappeler l'école, quels sont ses objectifs et ses formations, et puis voir après ses élèves, comment ils ont travaillé et pour en arriver à quoi et peut-être leur devenir.
Et bien avec plaisir, donc c'est une école, comme vous le disiez, qui fait du jeu vidéo, de l'animation et du design. C'est une école en 5 ans qu'on intègre après la classe de terminale. Et c'est une école professionnalisante, donc notre objectif est bien simple, c'est d'avoir plus de 90% des étudiants qui sortent au bout de 5 ans, qui trouvent du travail dans les secteurs pour lesquels ils ont été formés.
Alors ce sont des secteurs qui ont le vent en poupe, on peut dire ça comme ça quand même?
Oui, c'est à la fois des secteurs, et on a beaucoup de chance, qui ont le vent en poupe d'un point de vue de l'industrie, donc c'est-à-dire il y a du travail, et en même temps qui ont le vent en poupe vis-à-vis des jeunes, c'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont très attractifs pour les jeunes.
Alors évidemment pour nos auditeurs, peut-être qu'ils imaginent que c'est très ludique, mais en fait c'est quand même un vrai travail.
Alors, c'est un vrai travail. On fait souvent le parallèle avec la cuisine. On peut aimer la bonne cuisine, mais c'est pas pour autant qu'on est cuisinier. Le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. On peut aimer beaucoup jouer, mais c'est très différent que de concevoir un jeu vidéo. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faut répéter jusqu'à avoir un produit qui soit agréable à jouer.
Voilà, on va dire qu'il y a des consommateurs et puis qu'il y a des producteurs, des réalisateurs. En fait, il y a plusieurs métiers dans cette école.
Alors, pour produire un jeu vidéo ou un film d'animation, c'est assez comparable, il y a à peu près une trentaine de métiers différents. Ah oui. Donc, il y a des métiers ce qu'on appelle de la pré-production, c'est-à-dire qu'on invente un concept, on commence à le formaliser. Il y a des métiers de la production où, effectivement, on produit le jeu vidéo. Et puis ensuite, il y a évidemment des métiers comme associés au marketing et au commercial où on doit vendre, évidemment, le produit. Nous, on fait de la pré-production et de la production, on fait très peu le métier commercial.
Alors, comment Valenciennes se situe dans ce domaine? Je sais qu'il y a des écoles en France, et Valenciennes se situe comment par rapport à elle?
Bah, en fait, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a été porté par un couple innovateur absolument extraordinaire qui, il y a 30 ans, se sont dit on va faire une école de jeux vidéo, une école d'animation. Donc, on est la plus en jeux vidéo, on est quasiment la plus ancienne école en France. Et on voit arriver, et on le voit de plus en plus, tout un tas d'écoles qui forment à la même chose que nous, qui se sont lancées assez récemment.
Alors on voit bien que les canaux de distribution moderne, on va dire, des vidéos et tout ça, s'intéressent beaucoup aussi à cette forme, on va dire, de production, peut-être d'art aussi.
Ah, alors il est très clair que le jeu vidéo, c'est certes un loisir, mais il y a aussi beaucoup d'artistique parce que on revisite des sujets de la société d'une façon originale et le jeu vidéo est un grand créateur d'émotions. Donc si on considère l'art comme création d'émotions, le jeu vidéo est très très bien placé.
Alors pour entrer dans cette école, il faut des prérequis. Comment vous gérez les inscriptions et en fonction de quoi vous imaginez un devenir possible pour ces jeunes qui intègrent une école qui, j'imagine, n'est pas gratuite?
Alors, c'est pas, alors on va y revenir, c'est pas gratuit parce que c'est pas une école publique, donc il faut que tout ce qu'on a, on le subventionne avec, enfin on l'achète avec l'argent des frais de scolarité. Donc comment on fait? C'est un concours post-bac. D'abord, il y a différentes filières, il y a game designer, game artist, game programmeur, mais c'est tout post-bac. Et ensuite, il y a essentiellement un entretien de motivation qui a lieu sur la base du portfolio de l'étudiant, donc c'est-à-dire sur la base des projets qu'il a réalisés par lui-même. Et en fait, ce qui est très important pour nous, c'est de voir qu'on a des gens engagés qui seront prêts à beaucoup travailler parce qu'on fait partie des écoles dans lesquelles il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler.
Cette école existe depuis combien de temps?
Elle existe depuis 30 ans. Elle a été fondée par Philippe Delving et Marianne Fontenier en 1987, donc un peu plus de 30 ans.
Vous avez donc, au bout de 30 ans, à Rubika, un certain recul sur vos étudiants. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée de leur pronostic, je veux dire, leur perspective d'avenir et
Alors,
ceux qui sont déjà arrivés sur le terrain?
il y en a effectivement beaucoup qui sont arrivés, puisqu'il y en a à peu près plus de 5 000 qui sont arrivés sur le terrain du monde de l'entertainment, comme on dit en bon français. C'est des gens qui réussissent plutôt très bien, c'est des gens qui se font plaisir, et nous, on suit effectivement nos anciens quasiment depuis le début, et on regarde que la majeure partie sont restés dans le secteur dans lequel ils étaient formés, par exemple dans le jeu vidéo ou le film d'animation. Et bien en fait, les gens restent dans leur secteur, tout comme dans le design, parce qu'ils s'y plaisent, et ils évoluent quand même assez de façon très bien, de façon soit vers des fonctions d'experts, soit vers des fonctions de management ou de superviseur.
Donc, est-ce qu'il y a des plateformes dédiées à ces productions? Est-ce que vous-même, vous avez une plateforme où on peut voir des productions, notamment les lauréats de ce fameux jury dont on parle?
Alors oui, tout à fait. On a des plateformes. Enfin, c'est pas l'école qui a des plateformes dédiées, parce que le jeu vidéo, si on parle de jeu vidéo, il est en avance sur beaucoup de choses. Et il y a des plateformes comme Steam, par exemple, comme la vapeur en anglais, dans lequel vous avez quantité de jeux qui sont publiés tous les jours. Et nos étudiants, qui ont les droits sur leurs jeux, c'est-à-dire les jeux qu'ils produisent dans le cadre de l'école, ce sont leurs jeux. Eh bien, ils peuvent publier, s'ils le souhaitent, leurs jeux sur des plateformes Steam pour que les gens puissent jouer. Alors ça peut être gratuit ou payant, c'est eux qui choisissent. Et c'est pour pouvoir aussi concourir dans tout un tas de concours internationaux.
Alors j'imagine que ces jeux, on leur reproche d'être un peu addictifs, sinon beaucoup pour certains publics. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une déontologie derrière Rubika?
Alors, on leur reproche d'être addictif et d'être violent, en gros, si je fais les choses
Ouais,
assez
ouais.
simplement. On voit par exemple sur les 7 projets qui sortent de cette année, il y a ce qu'on appelle, il n'y a qu'un seul shoot 'em up, donc qu'un seul jeu où on doit tuer tout le monde. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ou 15 ans, où on avait plutôt 6 ou 7 jeux, c'est-à-dire la quasi-totalité des jeux qui sortaient, qui étaient des jeux violents, qui étaient des jeux de bataille. Donc on voit qu'avec les générations, on a notamment un jeu très amusant qui est vous avez un gestionnaire de parc naturel qui doit équilibrer entre la place qu'il laisse aux visiteurs pour gagner un peu d'argent et la place qu'il laisse aux animaux pour développer la biodiversité. Donc les étudiants sont de plus en plus enclins à développer des jeux qui sont hors violence et hors, c'est-à-dire qui sont dans les thèmes de la société. Et ensuite, le jeu qui sont addictifs, donc oui, c'est des choses où ils sont bien formés, ils sont très sensibles de trouver le juste milieu en disant conserver le joueur, un temps suffisant pour qu'il prenne du plaisir, mais pas trop longtemps pour pas qu'il s'abrutisse.
Donc ces thématiques, hein, est-ce qu'elles sont mises en commun quand les étudiants cherchent leur sujet ou est-ce qu'ils font par eux-mêmes de leur propre initiative ce qu'ils ont envie de faire, leur projet peut-être initial déjà qu'ils veulent mettre en place?
Alors, chaque étudiant de quatrième année propose un thème. Et ensuite, donc il y a un certain thème. Ensuite, l'équipe pédale arrive sur ces thèmes-là pour retenir ceux qui ont été le mieux travaillés. Mais il y a toujours un peu plus de thèmes que de place dans notre studio. Et à ce moment-là, c'est les étudiants eux-mêmes qui disent, bah tiens, finalement, je laisse mon projet pour aller travailler sur celui-là parce que c'est très sympa. Vous avez aussi des fusions de projets dans lesquels ils reprennent des idées qui viennent de plusieurs projets. Donc ça, c'est on apprend aux étudiants un peu à être entrepreneurs de leur propre création de jeux vidéo.
Est-ce que j'imagine que ces vidéos, elles ont souvent des supports sonores, enfin des ambiances peut-être, et peut-être des choses qui sont récurrentes, qui reviennent peut-être d'une vidéo à l'autre, je ne sais pas. Hein. Est-ce que ces artistes sonores, on peut dire des musiciens peut-être, ou des gens qui écrivent pour accompagner les projets vidéo, est-ce que ces gens-là, ils sont aussi dans l'équipe et est-ce qu'ils sont aussi intégrés en tant qu'élèves parfois ?
Alors, nous, on n'est pas une école de sound design, donc, c'est-à-dire que c'est une spécialité en tant que telle qu'on ne traite pas en tant que telle. Mais vous avez des accords qui sont faits avec d'autres écoles ou d'autres étudiants qui sont d'écoles de musique, parce que ce sont des artistes de la musique qui, effectivement, font des projets communs avec nos étudiants. Et on a, effectivement, dans le budget de leur... ils ont un petit budget pour chaque projet de jeu vidéo. Et on a un budget, effectivement, pour le sound design, pour payer des droits d'auteur.
Voilà, donc j'imagine que pour la rentrée, c'est largement le moment de s'inscrire.
Alors pour la rentrée là, il nous reste quelques petites places parce que toutes nos premières années sont prises. Il nous reste quelques petites places en année 3 pour le jeu vidéo. Mais s'il y en a qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à contacter l'école, il nous reste effectivement 4 places.
Et là, je sais que donc pendant deux jours, hein, il y a ce jury game qui se concentre sur les travaux de fin d'études, on va dire. Hein. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui, hein, par exemple, des choses qui ressortent, des talents qui deviennent évidents?
Alors, il y a pour lors des jurys, il y a à peu près 20 spécialistes, 20 professionnels qui viennent de studios divers et variés, qui viennent de toute l'Europe. Alors évidemment, on a des gens comme Ubisoft, on a des gens ou des studios locaux comme Nacon, par exemple, qui vont assister à la présentation que les étudiants vont faire de le jeu et surtout qui vont tester le jeu. Et les gamers, ils attendent d'avoir l'expérience complète, donc d'avoir testé tous les jeux pour faire leur premier retour.
Est-ce que ces professionnels viennent aussi pour capter certains talents, pour les intégrer à leurs équipes ?
En fait, vous avez tout compris. Alors, on a eu ça l'an dernier. Vous aviez des studios qui ont proposé à des groupes projets entiers de rejoindre leur studio, soit parce qu'ils étaient intéressés par l'idée, soit parce qu'ils étaient intéressés par l'équipe qui marchait bien. Parce que le jeu vidéo, c'est avant tout un travail d'équipe. Et quand vous avez une équipe qui fonctionne bien, qui a appris à bien traiter les travers des autres, ben, en fait, c'est intéressant pour les professionnels. Donc oui, ça arrive très souvent.
Voilà, eh bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet sur l'école Rubica et ses perspectives pour les étudiants d'avenir. Hein. Et donc, on vous souhaite bon vent, bon succès à tous ces élèves qui vont vous quitter, là.
Eh oui, après 5 ans, on a toujours une petite larme à l'œil en les voyant partir. Eux, ils sont très ambivalents, ils sont à la fois contents de partir et ils ont toujours un peu peur du monde professionnel.
Eh bien, merci, monsieur Stéphane André. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de Rubica, donc cette école de jeux vidéo et d'animation de Valenciennes.
Ça a été un plaisir pour moi, merci. Bon après-midi à tous.